Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Les parents, comme je le disais tout à l'heure, ont une lourde responsabilité, une lourde tâche, celle d'éduquer leurs enfants, les inculquer des valeurs pour que ces enfants soient des bons citoyens. Une éducation ratée a des conséquences néfastes sur l'ensemble de la société. Alors, que faut-il faire pour bien élever ses enfants? On en parle avec Isidore Bamanaï. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éducateur à la vie, hein, vous intervenez à partir de Mbujumaï. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Aujourd'hui, nous parlons de l'éducation. Comment faire pour réussir l'éducation des enfants? On a souvent entendu certains enfants, les gens disent « Ah, celui-là, c'est un raté, un fils à papa, c'est un garçon qui n'entend rien, il cause beaucoup de tort à tout le monde à gauche, à droite. » Qu'est-ce que les parents doivent faire, Isidore Bamanaï, pour bien élever les enfants?
Oui, merci pour l'invitation et merci pour la question. Elle est très importante,
oui.
Mais aussi c'est une question qui demande beaucoup de temps pour en débattre.
Oui.
Mais néanmoins, les quelques minutes qu'on peut passer avec vous, si les antennes de la radio Okapi peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre, je voudrais commencer par dire que les couples qui veulent avoir un enfant se préparent avant d'avoir même l'enfant. Parce que c'est par là aussi que l'éducation commence.
Oui.
Avoir un enfant, c'est une grande responsabilité. Les couples doivent se préparer. Le couple ne doit pas avoir un enfant au hasard. La grossesse ne doit pas être une surprise. On doit penser à l'enfant qui arrive, à son accueil dans la famille, à tout ce qu'on va lui réserver comme affection, comme encadrement, pour qu'il puisse évoluer et devenir une personne adulte et épanouie. Donc, il faut commencer par désirer cet enfant-là. Il faut commencer par se décider à avoir un enfant. Parce que souvent, quand un enfant est conçu par surprise, il devient un sujet de dispute entre les parents. La mère dit à l'homme, c'est ta faute. L'homme dit, mais moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais pas aller ailleurs.
Mmh.
Et depuis déjà, l'enfant ne sera pas en sécurité. Et pendant les 9 mois de grossesse, il faudrait que l'enfant puisse avoir un certain encadrement parce que déjà, vers les 5 mois de grossesse,
oui,
l'enfant entend le bruit du dehors et subit l'ambiance de l'environnement de sa mère. Donc si la mère est tout le temps dans un environnement d'irritation, de crainte, de plaintes ou de frustrations, cela arrive aussi à l'enfant. Donc, je crois que ça commence par là. Et le reste, c'est une évolution que les parents doivent être en mesure de suivre pour aider l'enfant à mieux grandir.
Mmh.
L'enfant vient au monde, il est accueilli dans ce couple qu'il a désiré, il est accueilli avec joie, il est accueilli dans une famille où peut-être il va trouver des frères et sœurs,
oui.
Il faut que cela aussi se prépare. Parce que quand l'enfant arrive au monde, il ne doit pas être boudé par celui qui vient justement avant lui. C'est le cas d'un bébé qui, peut-être lui, n'a pas encore 2 ans, mais sa mère est tombée enceinte. L'autre enfant arrive au monde, il se dispute l'affection auprès de la mère, ça crée des problèmes. Et je pense que tout ça, les parents doivent y penser. Et quand cet enfant a 3 mois, 4 mois, il entre en contact physique avec sa mère, avec son environnement, son contact-là doit faire que tout ce qui entre dans sa personnalité puisse l'aider à mieux grandir. Que les parents ne se disent pas, c'est un petit rien là, il n'entend rien, il ne comprend rien, mais tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent a une implication, a un impact sur l'évolution de l'enfant.
Voilà, Isidore Bamanaï, on y revient tout à l'heure, le temps de recueillir 2 questions. Nous avons Aline Okenda depuis Katakokombe et Amouli qui nous appelle de Lubumbashi. Nous commençons avec Okenda, bonjour.
Oui.
Quelle est votre question, Okenda?
Oui, moi j'aimerais poser la question.
Oui.
Ma question est la suivante.
Allez-y.
S'il y a un certain parent qui élève les enfants à bonnes conditions, mais avec le comportement de ses amis, l'enfant devient mauvais. À qui cette faute?
À cause du comportement, de l'influence des amis, l'enfant est dérouté. Ok, monsieur Isidore va répondre tout à l'heure. Amouli, depuis Lubumbashi, bonjour.
Bonjour monsieur, j'ai dit bonjour aux auditeurs de Radio Capi.
Vous avez la parole.
Oui, je voudrais poser la question à monsieur Isidore Bamanaï à propos de nos enfants, parce qu'il dit qu'il faut d'abord préparer la maternité de l'enfant, acquérir cet enfant, avoir de l'affection à l'enfant. Mais tout ça c'est bien beau, mais les enfants qui se retrouvent sur la rue ici, les chiens, les maïbobos, tout ça, est-ce que ces enfants-là, franchement, ils peuvent nous dire qu'ils n'ont pas été accueillis par ses parents et parler aux parents et avoir de l'affection par ses parents là-bas? Parce qu'ici à Lubumbashi, nous voyons des parents qui brûlent leurs enfants parce que l'enfant a été têtu, qui tuent les enfants. Ici à Lubumbashi, vraiment, c'est une monnaie courante. Ce qui peut nous donner vraiment, les formules pour vraiment éduquer nos enfants correctement, parce que nous avons des sérieux problèmes avec nos enfants.
Merci beaucoup, Amouli. Monsieur Isidore, vous avez deux questions.
Oui, merci pour les deux questions, notre ami de Katakokombe.
Oui.
Il dit les parents ont tout fait, mais l'enfant a subi l'influence des amis.
Oui.
Et il est devenu ce qu'il est, il a un comportement bizarre. À qui la faute? Moi, je crois que à qui la faute, c'est toujours les parents. Parce que quand on lui dit les parents ont tout fait, je ne sais pas ce qu'il met dans les parents ont tout fait. Parce qu'à un certain âge, l'enfant entre en contact avec d'autres enfants. Mais est-ce que les parents surveillent ce que l'enfant reçoit comme influence auprès des autres enfants? Il va à l'école, il est dans le quartier. Qu'est-ce qu'il entend les autres dire? Qu'est-ce qu'il voit les autres faire? Quand l'enfant revient à la maison, est-ce que les parents ont un petit moment pour vérifier qu'est-ce qu'il a entendu sur la route? Qu'est-ce qu'il a appris à l'école? Et à le regarder lui-même se comporter, qu'est-ce qui change en lui? De manière que, quand ils constatent qu'il y a quelque chose qui change en lui, qu'ils interviennent tout de suite.
Mm-hmm.
Qu'ils puissent voir comment rectifier les tirs, comment le ramener au principe que lui aura acquis auprès de ses parents. Mais il faut encore se dire, quels sont les principes que ces mêmes parents ont transmis à cet enfant. Qu'ils puissent faire de lui quelqu'un qui vit selon les principes de la vie, que nous appelons autrement les valeurs humaines. Sinon, l'enfant grandit comme ça, c'est seulement ce qu'il apprend au dehors qui a de l'influence sur lui. Pourquoi ce qu'il apprend au dehors a de l'influence sur lui alors qu'il sort d'une famille? C'est-à-dire les parents n'ont pas exercé leur pouvoir sur l'enfant.
Mmh.
Et parfois on se trouve devant un fait accompli, on commence à dire les enfants d'aujourd'hui ne comprennent pas, ils sont têtus, ils font ceci, ils font cela. Donc il faut vraiment que les parents veillent à l'éducation des enfants, qu'ils se disent ce qu'eux doivent faire en premier lieu est irremplaçable. Personne d'autre ne peut le faire à leur place, que ce soit l'école, que ce soit l'église. Et dans la société, nous rencontrons toutes sortes de personnes qui ont grandi dans des milieux différents. Ce qu'ils font peut avoir de l'influence sur l'autre. Mais si on a formé la personnalité de l'enfant, ce n'est pas un enfant qu'on doit influencer facilement par les autres.
Oui.
Cet enfant doit avoir une personnalité. S'il a une personnalité, il a grandi dans sa famille. Il sait que dans sa famille, il vit selon tel ou tel autre principe. Je pense que cet enfant, s'il aime ses parents, il ne va pas s'écarter de ce qu'il a reçu dans la famille comme principe de vie.
Alors on a
pour revenir à la question de notre ami de Lubumbashi,
oui.
S'il y a des enfants dans la rue, mais comment ces enfants sont venus au monde? Pourquoi ils sont dans la rue? Où se trouvent leurs parents? Moi, je pense que la question des enfants de la rue, c'est une question complexe.
Mmh.
Il faut l'étudier dans toutes ses facettes.
Alors,
il y a des enfants qui sont dans la rue parce qu'ils sont soupçonnés d'être sorciers ou quoi, ou les parents constatent seulement un comportement qui ne les arrange pas, ils se fâchent, ils arrivent même. Il y a des parents qui vont laisser leurs propres enfants au marché.
Ouais, il a dit aussi qu'à Lubumbashi, par exemple, il y a des parents qui arrivent à brûler leurs enfants parce qu'ils sont têtus, à les tuer même. Alors, il demandait quelle est la formule pour bien élever les enfants.
Ah, mais écoutez, la formule est très simple. Nous nous éloignons de ce qui est très simple et nous prenons des mesures graves. La formule, c'est instaurer le dialogue dans la famille. Parler régulièrement avec les enfants. Quand on parle régulièrement avec les enfants, ce n'est pas seulement leur transmettre ce que nous voudrions qu'ils deviennent, mais c'est aussi les observer, c'est aussi les écouter. Les enfants ont des besoins. parfois que les parents ne prennent pas en considération. Parfois, quand l'enfant apporte son besoin, il est rabroué, il est renvoyé avec des mots méchants. En ce moment-là, le climat dans la famille ne permet pas à l'enfant de s'ouvrir. C'est ainsi que petit à petit, il devient têtu. Et si l'enfant se rend compte que les parents ne font jamais attention à lui, si l'enfant se rend compte que les parents sont injustes dans la famille, ils donnent des cadeaux aux uns et ils les refusent aux autres. Ils acceptent ceci ou cela aux uns et ils les refusent aux autres. En ce moment-là, les réactions peuvent arriver, surtout à l'âge de l'adolescence, où l'enfant a besoin d'être traité avec respect et dignité. Beaucoup de parents pensent que parler avec les enfants, c'est leur transmettre seulement les instructions. Non, mais c'est aussi écouter les enfants, c'est aussi les aimer, c'est aussi que les enfants se rendent compte que vraiment, nos parents ici nous aiment. Voilà. Je crois que de cette manière-là, les enfants vont rendre cet amour à leurs parents, et ils vont devenir de plus en plus obéissants. Et brûler, c'est pas une solution, taper, c'est pas une solution, tuer, c'est pas une solution, ça c'est mettre la fin à une vie de quelqu'un qui est venu au monde chargé d'une mission quelconque.
Oui.
Nous devons aider les enfants à les découvrir, à les connaître, à les laisser aussi s'exprimer. Ça manque beaucoup dans beaucoup de familles. Les enfants n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Les parents croient que si les enfants s'expriment, nous allons être dirigés par les enfants vont nous importuner. Je crois que loin de là, il faut apprendre à écouter les enfants,
oui,
mais aussi à les respecter. Ils ont leur personnalité, ils ont une dignité, ce sont des personnes humaines, ils ont leur manière de voir les choses, ils apprennent à gauche, à droite,
oui,
peut-être qu'ils veulent vérifier auprès des parents, et si les parents ne veulent pas les écouter, je crois que le climat va s'infester et la situation comme celle qu'on déplore là risque d'arriver.
Alors, Isidore Bamana, il y a certains enfants, on entend parler, c'est un enfant gâté, soit la maman a trop choyé l'enfant, si on veut porter la main sur l'enfant et c'est fâche, son papa, propre papa le punit, et la maman elle lève la punition et plus tard c'est un enfant gâté, comme la société, les gens aiment bien le dire.
Ah, merci pour la question, je crois que nous, parents, nous devons faire très, très attention. Il y a entourer l'enfant d'affection, mais il y a aussi l'éduquer. L'éduquer, c'est aussi éduquer son affectivité. Il n'est pas dit que les parents doivent céder à tous les besoins des enfants. Hein? Les parents doivent apprendre aux enfants aussi à s'imposer des sacrifices. Par exemple, on traverse une période difficile. On était habitué à la maison à prendre du thé au lait avec des pains beurrés. Mais on connaît un moment difficile, on négocie avec les enfants, on se dit, on s'impose des sacrifices, parce que vous devez aller à l'école, parce que nous devons payer l'uniforme et les objets classiques,
oui,
parce que vous devez manger même une fois par jour, nous supprimons le thé du matin, et on négocie avec les enfants, ou on les remplace par autre chose. Je crois que gâter un enfant, c'est vraiment gâcher toute son éducation. L'enfant croira que tout doit lui obéir, comme par une simple baguette magique. Or, la vie, elle est contraignante. La vie,
oui,
elle est faite de moments de difficulté. La vie, on doit s'imposer à un certain moment de sacrifice. On doit avoir des sentiments louables, des sentiments nobles. Donc, il faut vraiment que les parents se disent, tout en aimant nos enfants, nous ne devons pas les gâter. Nous devons leur apprendre à supporter certaines souffrances qui arrivent dans la maison. Et comme ça, cela entre dans la formation de leur personnalité. Faut pas vraiment les gâter. Si vous gâtez un enfant, je crois que vous avez vraiment échoué son éducation. Il sera un être qui ne va pas beaucoup contribuer à l'avancement de sa famille et même de sa communauté.
Mais Isidore Bamana, est-ce que c'est taper les enfants? Par exemple, il y a certains parents qui fouettent les enfants quand ils commettent des bévues ou des choses qui ne plaisent pas aux parents. Est-ce que taper, porter la main sur l'enfant, est-ce c'est mauvais? Est-ce c'est bien?
Bon, écoutez, il nous arrive à nous tous de porter la main sur l'enfant. C'est vite fait, une gifle est partie, un coup de poing. Même un coup de pied, c'est parti. Sous l'effet de la colère, ça peut arriver. Mais moi, je pense que taper, c'est une violence. Ça ne fait qu'apprendre à cet enfant la violence. Et comme l'enfant ne peut pas rendre la violence qu'il a reçue de ses parents, il devient violent envers les autres. C'est-à-dire envers ses frères et sœurs, mais aussi envers les autres enfants du quartier, même envers les enfants au niveau de l'école. Taper, ce n'est pas une solution. Les enfants commettent des bévues. Il ne faut pas attendre que l'enfant commette des bévues pour commencer à taper. Il faut au préalable lui transmettre les principes de vie, comme je venais de le dire,
oui.
Comme le respect, comme la vérité, comme l'esprit de partage, comme
la propriété.
Le sens du travail, comme la propriété, et ainsi de suite. Ce sont des principes qui doivent précéder taper. Mais il peut arriver que l'enfant enfreint les principes. Mais je crois que la plus grande punition, c'est d'aider cet enfant à reconnaître sa faute. Il faut qu'il reconnaisse sa faute. Il faut aussi lui apprendre à dire aux parents, je reconnais ma faute, je demande pardon. Sincèrement. Mais aussi, qu'il promette de ne plus y revenir. Cela ne doit pas dire aux parents, si je n'ai pas tapé, les enfants vont me prendre pour un homme faible.
Mmh.
Mais attention. Même si à un certain moment vous voulez taper, je crois que c'est difficile à faire, il faut le faire sans la colère. Je sais que c'est difficile à faire.
Oui.
Il faut le faire sans la colère. Et en ce moment-là, vous dites à l'enfant, parce que vous avez fait ça, et que je ne suis pas vraiment d'accord, je suis touché dans mon amour propre, je vais vous punir. Mais écoutez, vous pouvez aussi punir d'une autre manière. Punir, ce n'est pas seulement donner une gifle.
Oui.
Vous vous rendez compte? Un jour, un parent, ils ont puni un enfant qui avait mal agi, jusqu'à pousser à l'enfant à dire, dites-nous qui vous a donné la sorcellerie. Parce que l'enfant a subi cette maltraitance, l'enfant a fini de dire, c'est un élève de notre école qui m'a donné la sorcellerie. Alors que c'était faux. Quand nous avons vérifié par après, nous nous sommes rendus compte que c'était ce supplice-là, que l'enfant ne voulait plus continuer à subir,
oui.
qui l'a amené à dire, c'est tel élève qui m'a donné la sorcellerie. Vous voyez, ça peut compliquer toute la vie, et en ce moment-là, même l'avenir de cet enfant est compromis. Taper, c'est pas une solution. Mes chers parents, c'est pas une solution.
Taper
n'est
pas une
solution, même pas justifié qu'on est faible.
Oui.
Mais si on est grand, c'est regarder la faute, c'est parler calmement devant cette faute, c'est d'inviter l'enfant à reconnaître sa faute. Ça, c'est prouver qu'on est fort.
Voilà.
La force devant une faute, ce n'est pas taper.
Voilà, c'est pas taper. Nous avons en ligne Blanchard depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur. Blanchard, bonjour.
Oui, bonjour, Gédé.
On vous écoute. Quelle est votre préoccupation?
Oui, j'aimerais poser la question à l'invité, puisque je sais qu'éduquer n'est pas facile. Ce n'est pas une chose facile. Puisque moi, j'ai des petits frères ici, mais je prouve d'énormes difficultés pour pouvoir les éduquer.
Oui.
Bon, nous qui sommes des futurs parents, puisque nous allons faire des enfants, qu'est-ce que nous allons faire plus tard et surtout éviter pour réussir à l'éducation de nos futurs enfants? Voilà ma préoccupation que j'avais à poser à l'invité.
Merci à Blanchard. Monsieur Isidore.
Oui, merci pour la question et merci pour l'attention que vous portez déjà à vos enfants futurs. Mais quand vous dites que vous avez des petits frères, vous êtes tous dans la famille de vos parents ou vos petits frères vivent avec vous chez vous, je ne sais pas. Et les petits frères, ils ont commencé à vivre quelque part où ils ont reçu une certaine éducation de base. Et je vous assure que quand les principes se sont installés, les corriger, ça devient une tâche difficile. Si cette tâche est difficile, comme vous le dites, nous invitons souvent les parents à la patience et à la confiance. Les deux mots clés pour pouvoir éduquer. Patience et confiance. Patience parce que ce que vous avez commencé à semer ne va pas porter de fruits aujourd'hui. Il faut attendre le temps que cet enfant, qui a quitté peut-être ses propres parents et qui a commencé à vivre avec vous, se mette à intérioriser les principes que vous voulez lui transmettre. Mais il faut aussi savoir comment vous transmettez ces principes-là. C'est là aussi toute la question qu'il faut se poser. Mais patience et confiance. Confiance parce que l'être humain, ce n'est pas un être qui reste statique, c'est un être qui peut changer. Aujourd'hui ou demain, cet être peut changer et petit à petit, il va commencer à vous comprendre, il va commencer à dire, ah, ce que je ne comprenais pas avant, Maintenant, je commence à comprendre que vous le faites pour mon bien. Donc, il faut convaincre l'enfant que ce que vous lui transmettez comme principe, c'est pour son bien. C'est pour qu'il puisse bien évoluer, qu'il ait une certaine considération autour de lui, auprès des autres enfants, auprès des autres parents qui le voient évoluer quelque part, oui. Auprès de ses collègues élèves, auprès des enseignants, s'il fréquente une école. Donc, il faut vraiment attendre, parce que les enfants qui naissent dans des conditions que nous n'avons pas contrôlées, et ils viennent au monde avec un certain bagage. Oui. Je vous ai dit, l'influence dans la personnalité de l'enfant a commencé depuis qu'il était dans le sein de sa mère. Il faudra attendre pour pouvoir redresser petit à petit une situation qui n'est pas satisfaisante.
Voilà, vous avez des questions,
si vous voulez,
des réactions.
Si vous voulez penser à vos propres enfants, commencez déjà à vous préparer.
Oui.
Quand vous avez une fiancée, commencez déjà à vous dire comment nous allons élever les enfants que nous aurons à mettre au monde et nous en aurons combien. À ce moment-là, je pense que vous vous y préparerez en conséquence.
Voilà, vous avez dit, il y a deux mots clés, la patience et la confiance. Des questions, des réactions, composez des 081-890-6394 ou écrivez-nous à service@radiocapi.net.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081-890-6394 et envoyez vos SMS au 081-070-2050 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Isidore Bamanaï, éducateur à la vie, vous intervenez à partir du Mbujimayi, au Kassai oriental. Il peut arriver qu'une jeune fille qui n'est pas encore mariée tombe enceinte et l'auteur de la grossesse disparaît dans la nature. Et la fille doit reprendre ses études, elle laisse la garde de l'enfant à sa mère. Et pour un tel enfant qui grandit auprès de ses grands-parents, son éducation est en danger?
Oui, tout à fait. Son éducation est en danger. Parce que l'enfant doit grandir normalement auprès de ses propres parents qui l'ont mis au monde,
oui.
Auprès de sa mère qui l'a porté dans son ventre pendant autant de mois et qui l'a chéri encore tout petit. Et si les grands-parents, ils ont quel âge? S'ils ont déjà dépassé l'âge de 50 ans, la mère a commencé la ménopause, le père a commencé aussi l'andropause. Et à cet âge-là, tout ce que l'enfant peut faire, s'il crie, s'il pleure, s'il a fait ses besoins dans ses habits, s'il a joué dans la boue, qu'il veut aller vers les parents, ce n'est plus tellement accepté à cet âge-là. Or, les parents qui sont encore à l'âge où ils doivent élever leurs enfants, ils arrivent à supporter.
Oui.
Ils arrivent à transporter même un enfant qui a joué dans la boue. Vous voyez, en ce moment-là, l'enfant se rend aimé, il se rend compte qu'il est aimé et qu'il est plus près de ses propres parents. Je pense que là, il faut vraiment faire attention parce que si les parents de la fille ont accepté de garder l'enfant auprès d'eux, ils doivent fournir un effort pour l'accepter,
oui.
Pour l'aimer et pour l'éduquer. C'est-à-dire l'éduquer, l'enfant peut pleurer la nuit. S'il dort avec sa grand-mère, je crois que le grand-père peut dire « Sortez de ma chambre, vous me dérangez. » Or, quand il s'agissait de son propre enfant,
oui.
Il ne pouvait pas dire cela. Maintenant, il le dit parce qu'il n'est plus disposé psychologiquement à accepter le bruit de l'enfant.
Oui.
Donc, ils doivent se faire violence et accepter que l'enfant peut faire du bruit à côté d'eux, accepter que l'enfant peut jouer dans la boue et le prendre pour le laver calmement. Et pour lui transmettre tous les principes qu'ils ont transmis à leurs propres enfants.
Voilà, nous avons...
Mais je reconnais que vraiment,
oui.
Son éducation ne sera pas très, très... Sauf si les grands-parents prennent des dispositions.
Voilà, nous allons recueillir rapidement les deux dernières questions. Tréor Mbachi nous appelle des Kananga et Dieudonné également, à partir des Kananga. Tréor, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole.
Oui, c'est pour ça, à partir de quand, je veux un peu savoir les dispositions qu'il faut prendre pour un enfant qui est déjà dans la rue. Je ne sais pas si c'est peut nous aider à trouver des solutions pour cet enfant-là. C'est ma question.
Merci Tréor Mbachi, depuis Kananga. Dieudonné, bonjour.
Présent, bonjour.
Votre question?
Oh, ma question est la suivante. Il arrive des fois qu'il y a des pommes de discordance entre les parents et les enfants en rapport avec les aspects spirituels. Tu peux être d'une église catholique et l'enfant à 15 ans il se dit que moi je ne veux plus être catholique, je voudrais une autre église. Et généralement ça pose des problèmes et c'est toujours l'enfant qui est victime. Quelle conduite à tenir si l'enfant vous propose une autre religion que celle de sa naissance à un certain âge?
Monsieur Isidore Bamanaï, merci beaucoup. Monsieur Isidore.
Notre ami de Kananga, si l'enfant est dans la rue et qu'on cherche peut-être à le récupérer,
oui.
On devra se poser la question de savoir qui veut le récupérer, est-ce ses propres parents ou une famille d'accueil. Si on veut le récupérer, on doit se préparer à le récupérer. Quand il arrive dans cette famille, quel est le cadre idéal qu'on va lui offrir? Où est-ce qu'il peut dormir? Est-ce qu'il aura des habits? Est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il sera accepté comme enfant? Est-ce qu'il sera accepté par la suite? Parce que dans la rue, il a adopté un autre comportement. S'il a fait ce comportement dans la famille d'accueil, ceux qui l'ont accueilli ou ses propres parents devront attendre. Parce que s'ils se disent, s'ils lui rappellent toujours, ce que vous faites là, c'est ce que vous avez appris dans la rue,
oui.
C'est comme s'ils confirment qu'il doit continuer à se comporter de cette manière-là. On devra comprendre petit à petit qu'est-ce qu'il a appris dans la rue qu'on doit chercher à redresser et à corriger.
Voilà, par rapport
de cette manière-là.
Oui.
Oui.
Alors, maintenant, par rapport à rapidement la question des Dieudonné à propos de la religion.
Ah, ça, c'est une question très délicate. Hein. Je crois qu'on a soulevé un thème assez vaste.
Oui.
Et nous y sommes allés très, très vite. Je ne sais pas s'il y aura assez d'éléments pour aider nos auditeurs.
Oui.
Mais pour la religion dans la famille, il est souhaitable que les parents et les enfants prient dans une même église. C'est souhaitable.
Oui.
Mais si l'enfant propose une autre église, cet enfant à quel âge? S'il a plus de 18 ans, eh bien, les droits lui donnent la liberté, même la liberté de religion.
Oui.
Mais je crois que les parents doivent se poser la question de savoir pourquoi cet enfant a opté pour une autre religion. Peut-être que l'enfant ne voit pas auprès de ses parents des signes qui indiquent qu'ils sont vraiment chrétiens. Parce que nous avons eu un entretien avec des enfants à propos, les enfants nous disent, mais quand nous regardons nos parents fréquenter l'église, ce qu'ils font à la maison ne traduit pas qu'ils sont vraiment chrétiens. C'est ainsi que nous préférons aller prier ailleurs. Je pense qu'il faut seulement parler avec l'enfant, et discuter avec lui calmement, lui demander pourquoi il veut quitter l'église ou prier ses propres parents, si les raisons sont valables, si les parents trouvent qu'il y a quelque chose que l'enfant dit qu'il les interpelle, ils peuvent se corriger. C'est s'ils se corrigent que l'enfant va se dire, bon, là où on prêche la parole, c'est peut-être la vraie, je peux aller suivre cette parole-là avec les parents.
Voilà, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un thème vaste, on pourra y revenir prochainement. On s'arrête là pour aujourd'hui. Oui. Isidore Bamanaï, vous êtes éducateur à la vie, et vous intervenez à partir de Mbujimayi au Kasaï oriental. Merci et bon début de semaine.